France Culture. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Aventure, histoire et uchronie. Voici l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, mais aussi l'improbable révolution de Corentin Tréguier au Royaume-Uni. C'est l'histoire de ce qui nous unit, de ce qui nous divise aussi avec la division. Et avec Jean-Paul Lyon, fou d'histoire, pour donner la parole à celles et ceux qui ne sont pas historiens, pas historiennes, mais qui racontent le passé tel qu'il a été ou tel qu'il aurait pu être, mais peut-être aussi pour comprendre ce qu'il a été. Emmanuel Suarez est auteur et fou d'histoire.
Merci, Solange.
Merci. Merci, mère.
Ils auraient quand même pu te nommer capitaine de frégate. C'est le minimum quand on sait que tu n'as quasiment aucune chance d'en revenir vivant.
C'est une mission secrète, mère, qui se prête donc peu aux cérémonies de promotion.
Quelle région allez-vous explorer, Corentin?
Alors,
si vous partez avec le lac Galissonnière, ce doit être l'ouest. Allez-vous en pays Mossi, chez les Fanti, chez les Bamoun? Non, vous n'allez pas répondre, c'est secret, je le sais. Oh, c'est tellement excitant.
Apolline connaît tout des territoires sauvages. Tu devrais l'enrôler.
Oh, j'ai dévoré les livres de Monsieur Duchaillus. Oh, c'est gorille, quelle horreur. Et puis, il y a les revues anglaises que mes filles me font parvenir de Cherbourg. Je ne comprends rien. Mais les cartes sont sublimes.
Ah bah les cartes sont sublimes et ces épisodes le sont tout autant. Bonjour Emmanuel Suarez.
Bonjour.
Comment va Corentin Tréguier ?
Ben Corentin Tréguier va très bien. Il est, enfin, si on s'en tient au feuilleton, là il est dans une posture un peu délicate dans la tour de Londres, mais il va s'en sortir et essayer de changer le monde à sa manière.
L'extrait que l'on vient d'entendre, ce sont ses aventures au Congo. Désormais, il est au Royaume-Uni. Qui est Corentin Tréguier ? Comment on pourrait le présenter ?
Alors Corentin Tréguier, c'est un jeune homme qui est complètement inadapté à son époque. Donc il est né dans les années 1850. Au moment où ses aventures commencent, on est en 72 dans le premier tome, en 75 dans le deuxième. Donc c'est un jeune homme, officier de marine parce que son père était officier de marine, complètement nul dans l'exercice des armes, il a le mal de mer, mais il est passionné de botanique, et il est passionné de... Sa mère dit qu'il est né un siècle trop tard. Ça pourrait être quelqu'un du XVIIIe siècle, un naturaliste, quelqu'un qui passe sa vie dans les champs, etc., à observer la nature telle qu'il la voit. Et finalement, il va se retrouver dans les aventures réelles, historiques, de la fin du XIXe siècle, à observer les humains et le monde et l'histoire telle qu'elle se déroule devant ses yeux, comme un naturaliste. Et là, vraiment, il ne comprend pas ce qu'il voit.
Il ne comprend pas ce qu'il voit, et ce qui correspond aussi un peu à notre position quand on est face à l'histoire. On ne comprend pas ce que l'on voit, parce que l'on sait bien que les acteurs des moments de l'histoire sont plongés dans les événements, eux-mêmes les comprennent pas. En fait, c'est ça l'histoire aussi, c'est donner du sens, de la compréhension. Et vous, dans cette démarche-là, avec ce Corentin Tréguier qui traverse le monde pour aller au Congo, et un petit peu moins pour aller au Royaume-Uni, on a aussi cette idée de présenter un univers particulier de l'histoire. C'est très intéressant de suivre ce personnage qui ne comprend rien à ce monde, sachant que nous, nous avons ce recul que vous nous offrez, Emmanuel Suarez, pour le comprendre. C'est ce jeu-là, en fait, avec lequel vous vous amusez, vous le plongez dans un univers où il avance à tâtons. Et d'ailleurs, on le suit, et même nous, on est un peu perdus. Qu'est-ce qu'il va découvrir ? Je reprends les adjectifs qui sont dans les titres de ces épisodes. C'est quand même l'incroyable expédition et l'improbable révolution. Il y a de l'incroyable et de l'improbable là-dedans.
Oui, et en particulier pour le personnage principal lui-même. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de promener un extraterrestre, presque, parce que finalement, c'est presque le statut qu'a Corentin dans l'histoire, dans l'époque dans laquelle il vit, dans une réalité historique qui est la plus documentée, la plus juste possible. J'essaye vraiment d'être absolument irréprochable sur la documentation historique. Mais en fait, le fait de projeter un personnage qui est décalé et qui ne comprend pas, qui n'a pas les codes, en fait, ça permet déjà de réexpliquer, de revisiter les choses avec un regard neuf qui est le sien, mais aussi, pourquoi pas, de les transformer par rapport à la réalité de ce qui s'est passé dans l'histoire.
Voilà, parce que sans vouloir dévoiler ce qui se passe, ce serait vraiment dommage de divulgâcher les histoires et puis de dire ce qui arrive à Corentin Tréguier, parce que vous allez loin dans les possibles... Enfin, il y a de l'Uchronie ici, et c'est ça qui est absolument formidable. Pourquoi avoir fait ce choix de l'Uchronie ? Parce qu'on sait bien que placer un personnage à un moment de l'histoire, lui faire vivre des éléments, n'est pas obligatoirement changer l'histoire. Les événements pourraient rester les mêmes. Vous, vous faites un choix différent, c'est-à-dire que l'histoire, au sens que les événements du passé, tels que nous les apprenons, sont différents. C'est un véritable choix, ça, l'Uchronie.
Oui, alors je pense qu'au départ, à la base de ma démarche, il y a aussi une forme d'utopie. Un regard qui est un regard neuf, et je me dis, il y a quand même beaucoup de choses. La plupart du temps, les œuvres littéraires ou les œuvres de fiction partent d'une révolte intérieure, de choses qui nous révoltent, notamment des situations d'injustice, et qu'on explore. Alors, on peut les explorer de façon réaliste, pour les dénoncer, on peut les explorer pour essayer de trouver autre chose. Et je pense qu'au fond, dans ma démarche, il y a toujours cette idée de comment ça aurait pu se passer autrement. Et l'Uchronie, elle est venue petit à petit dans mon écriture de Corentin. C'était pas une évidence au début, elle m'est venue d'ailleurs assez tard, la fin de Corentin Tréguier, qui est la seule chose qui est résolument uchronique dans le premier Corentin Tréguier au Congo, c'est juste la résolution finale, c'est vraiment les dernières minutes. Et j'ai repris ce principe dans le deuxième Corentin, c'est qu'en fait, je prends pas une uchronie comme par exemple Philippe Kédic dans Le Maître du Haut-Château qui part d'une uchronie. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se serait passé si les Allemands et les Japonais avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de ce point de départ, on déroule impossible. Moi, finalement, c'est presque une démarche inverse. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, finalement, en regardant les choses autrement, pour que tel ou tel événement n'arrive pas. Donc, finalement, l'uchronie, elle commence là où mes histoires se terminent. Et je pense que c'est une façon pour moi de dire, peut-être que, en fait, en donnant aussi la parole à des gens qui remettent en question les principes, notamment là, dans Corentin, c'est toujours les principes de domination. Dans le premier tome, la domination des mondes occidentaux sur les mondes non occidentaux, qui a donné lieu à la colonisation. Dans le deuxième tome, c'est plutôt la domination capitaliste des possédants sur ceux qui travaillent, qui donne donc vraiment le capitalisme tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui se serait passé si on s'était dressé contre ces principes même, en fait? Pas seulement contre des événements qui les ont constitués, la colonisation, le capitalisme, mais vraiment contre les principes. Et Corentin, c'est ce qu'il fait. Il dit, ah bon? Mais comment ça? Le monde chrétien est supérieur aux autres mondes? Mais pourquoi? Ah bon? Mais les hommes sont supérieurs aux femmes? Mais pourquoi? Etc, etc. Ah bon, mais les possédants, le propriétaire de la mine a plus de droits que celui qui extrait le charbon. Mais pourquoi? Donc ce regard neuf, ces pourquoi successifs qui sont vraiment la matrice du personnage principal, permettent in fine de changer d'histoire. Mais c'est pas forcément le point de départ.
Oui, et le in fine est très important parce que dans cette lecture du passé, il y a, et vous évoquiez les dominations des patrons sur les ouvriers, par exemple, une lecture marxiste de cette affaire. On pourrait dire qu'il y a une dialectique historique qui, à force de grève et de révolution, va conduire à l'anéantissement du capitalisme. Mais au moment où on se met en grève à la fin du 19e siècle, on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce que la grève va réussir et le capitalisme va disparaître ou est-ce que ça va continuer? On sait, nous, que ça continue. Vous le savez, vous aussi, que ça continue. Et dès lors, vous permettez à Corentin Tréguier d'utiliser d'autres voies. Et c'est ça qui est absolument formidable. Et c'est pareil pour la lutte contre la colonisation. Elle a été dénoncée, mais ces dénonciations n'ont pas fait disparaître la colonisation. Alors, Corentin Tréguier, vous, l'auteur, vous trouvez d'autres voies. Je le dis parce que c'est pas tout dévoilé, mais dire dans l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, c'est la fin du colonialisme. Maintenant, reste à savoir comment. Et sans vouloir le dire, le comment, c'est ça qui est génial. C'est vous trouver une voie. Alors, elle est folle, elle est formidable, elle est exceptionnelle. Mais c'est une voie. Et cette voie-là, les gens du passé ne pouvaient pas l'imaginer.
Oui, après, moi, ce qui m'amuse, c'est là où la fiction rend beaucoup de choses possibles. C'est de sortir d'une vision un peu finaliste, justement, de l'histoire, à savoir tout était prévu, il y avait un objectif, l'objectif a été atteint, etc. Et en fait, ce qui m'intéresse aussi, c'est Corentin Tréguier et ses acolytes font les choses souvent par hasard, en tout cas lui par hasard, par accident. Donc le point de départ, notamment de la grève des mineurs qui est au centre l'improbable révolution au Royaume-Uni, c'est un malentendu sur un mot. Et un malentendu sur même une personne, parce que Corentin est français, qui débarque, on verra pourquoi, si on lit ou si on écoute, qui débarque au Pays de Galles, et que soudain la figure du français, de la Révolution française, par l'intermédiaire en plus d'une femme de mineur qui se passionne pour ce sujet-là, fait de lui un potentiel héros révolutionnaire, ce qu'il n'est absolument pas, ou en tout cas, ce qu'il ne savait pas qu'il pouvait être. Et ça part d'un malentendu, comme dans l'expédition au Congo, beaucoup de choses partent d'une maladresse, d'un malentendu, et là au départ d'un point de vue, d'un point de départ complètement fantastique, qui est qu'on imagine que un scientifique français et toute son expédition se serait transformé en singe. Et ça, ça m'amuse aussi parce que c'est aussi une façon de rire. L'humour est présent, la fiction permet l'humour sur l'histoire, ce que les études des documents historiques, bien sûr, ne permettent pas toujours. Et ça permet aussi d'avoir un regard un peu décalé par rapport à bah, ça s'est passé comme ça parce qu'il y a une logique historique, parce qu'il y a des personnalités, parce qu'ils avaient un but et qu'ils ont atteint ou pas atteint leur but. Mais plutôt aussi, il y a beaucoup de hasard et il y a beaucoup d'invraisemblance. Et donc voilà, moi ça m'amuse aussi de moquer des puissants, notamment de leur croyance dans la justesse, la justice de leurs objectifs, qui sont pas toujours aussi justes que cela. Et la fiction, et notamment la fiction radio et la bande dessinée, parce que les histoires sont dans ces deux formats, permet de prendre cette distance et de jouer, de rire de ça.
Oui, parce que ces aventures de Corentin Tréguier, nous pouvons les retrouver sur l'appli Radio France en podcast et nous les retrouvons également sous forme de bande dessinée. C'est publié chez Nathan Bande Dessinée. Avec ici ces puissants qui sont moqués et il y a de l'humour et notamment ce sont les préjugés des puissants. Quand on lit dès le début des aventures au Congo, ce puissant qui dit et c'est vous qui allez vous justifier auprès de la Bretagne entière qu'en Bretagne, il y a soit des marins et les plus audacieux, soit des crétins laboureurs. Donc en Bretagne, il y a deux types de personnes selon ce préjugé. Reste à savoir dans lequel des deux se trouve Corentin Tréguier, qui, par son nom, nous l'indique, est d'origine bretonne.
Oui, alors moi, ça, en effet, c'est les préjugés m'amusent parce que finalement, la plupart des gens, je pense qu'il y a des gens qui sont authentiquement, mauvais, mais la plupart des gens ne le sont pas ou ne pensent pas l'être, mais ont quand même des préjugés. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les préjugés des puissants. Des gens qui, finalement, sont élevés avec beaucoup de culture, la plupart du temps, encore aujourd'hui, qui ont des études formidables, qui ont une culture très élargie par rapport au commun des mortels. Mais ça les empêche pas d'avoir des préjugés parce qu'on vit dans des bulles, on vit dans des sphères. Quelqu'un qui, aujourd'hui encore, et à l'époque, au 19e siècle, est au sommet de l'État. Là, le personnage dont vous parlez est un chef d'entreprise, Gaston de Fondeuvre, qui est un banquier fictif, mais comme beaucoup de banquiers réel existait, et donc il y a un peu l'impression de dominer le monde, et d'ailleurs qui domine le monde à cette époque-là, et en fait il est peut-être jamais allé en Bretagne, ou il a peut-être traversé en fiacre, et donc il a cette vision, il a rencontré des Bretons capitaines de marine, ou même amiraux, et il y en a beaucoup, et puis il a vu des paysans s'embourber, et donc c'est cette espèce de vision duale, manichéenne du peuple. Et moi, ça m'intéresse aussi parce que finalement, on entend aujourd'hui encore beaucoup d'a priori, parfois très violents, des gens en position de domination sur les humbles. Et après, qui peuvent se justifier en disant « Ah non, c'était pas du tout méprisant, mais quand même, etc. » Donc moi, je trouve que la fiction est un bon endroit pour cela. Et puis, ils sont absolument convaincus du bien fondé de leurs opinions. C'est comme donc il y a un groupe d'aristocrates anglais dans les deuxièmes aventures de Corentin, et qui sont vraiment intimement persuadés qu'ils font le bien du peuple, que l'argent, leur argent ruissellera, si je puis me permettre cette expression, sur leurs ouvriers et les familles de leurs ouvriers, et ils sont pétris d'a priori souvent très méprisants, et en même temps avec la conviction que s'ils n'étaient pas là, ces gens-là mourraient de faim, ce qui n'est pas complètement faux. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que la fiction permet d'alterner les points de vue. De se moquer, certes, mais aussi de faire entendre des choses qui peuvent être justifiables d'une certaine manière.
Oui, parce que à la source de tout préjugé, il va y avoir quelque chose qui est une vérité pour la personne, au moins qui prononce le préjugé. Et on le voit bien, que ce soit dans les aventures de Corentin Tréguier au Royaume-Uni ou dans celle de Corentin au Congo. Dans les deux cas, il y a de ça. C'est-à-dire que la motivation des patrons d'un côté ou de ceux, et je l'utilise au masculin sans aucun souci, qui portent ces expéditions coloniales, mais c'est le bien-être des populations, c'est vraiment cela, et c'est ce à quoi est confronté Corentin, parce que lui, il se rend compte de ce qui se passe réellement. C'est un peu la naïveté dont nous avons besoin aussi pour comprendre le monde, c'est cette naïveté-là qui porte Corentin.
Oui, et c'est important aussi, alors dans le deuxième tome, je l'explore chez lui, qu'il ne soit pas lui-même exempt de préjugés. Donc dans le deuxième tome, il découvre en fait la réalité de la vie des mineurs, et il dit mais... Il écrit une lettre à sa mère et il lui dit « Mais on a vraiment été aveugles de ne pas voir la souffrance derrière le charbon qui nous chauffe, derrière les rideaux, les lourdes tentures du salon à la maison, de voir toutes ces souffrances. Et aujourd'hui, je le regrette. Et lui, pas une seule question. C'est un bourgeois, petite noblesse bretonne. Jamais une fois dans sa vie, il s'est posé la question de la fabrication des tissus qu'il porte. Donc même lui, qui finalement a un regard neuf, c'est important pour moi de dire personne n'est à l'abri de ce genre de préjugés. Et dans le premier tome, c'est le personnage de Camille, qui est le personnage féminin, qui a beau être féministe, extrêmement engagé là-dessus, n'est pas exemple de préjugés racistes. C'était important pour moi que ce personnage, qui est très positif, au début de l'aventure, soit comme presque tous les gens de cette époque, elle est belge, donc elle pourrait être française, mais comme presque tous les gens de cette époque, et des préjugés racistes sur les populations africaines.
Oui, jamais nous ne sommes dans la caricature. C'est ça aussi qui est passionnant, parce que la subtilité, c'est important pour comprendre l'histoire, se replonger dans un contexte, et on n'est pas dans la condamnation stigmatisante de la personne, sans chercher à savoir qui il est dans sa complexité. Direction le Royaume-Uni.
Ils sont magnifiques, ces babouins. C'est vous qui les avez dessinés ?
Ce ne sont pas des babouins, mais des orangs-outans. Ceux-ci sont des Pongo pygmaeus de Bornéo, et ceux-là sont des Pongo abélis. On ne les trouve qu'à Sumatra.
Vous revenez des Indes orientales ?
Non, j'y vais. Je viens d'embarquer à Nantes. Et vous ?
Je débarque ce soir à Cardiff et je rentre enfin chez moi. Lord Bolingbroke, comte d'Hertford, baronnie de Cornwall.
Corentin Tréguier, de pas loin de Lannion.
J'avais reconnu une petite pointe d'accent breton. Cela dit, votre anglais est excellent.
Merci. J'ai appris par cœur les livres de Charles Darwin à l'âge de 9 ans. Ils n'étaient pas encore traduits à l'époque.
Les primates ont toujours été votre passion ?
Non, c'est assez récent. Une belle rencontre dans les forêts d'Afrique centrale. Avant, j'étais plutôt orchidée.
L'Afrique centrale. Quel dommage qu'on l'ait abandonnée. On dit que les rivières écrachent de l'or et les troncs du caoutchouc.
Je n'ai rien vu de tel, mais je vous assure que les singes y sont philosophes.
J'ai toujours admiré les naturalistes. Votre patience m'émerveille.
L'improbable révolution de Corentin Tréguier au Royaume-Uni, avec cette traversée du monde malgré tout, parce que nous avons le Congo, nous partons à l'autre bout du monde. Les singes sont omniprésents. Hein. Vous avez, Emmanuel Suarez, une obsession singe.
Oui, je crois. J'ai une obsession. Y a beaucoup de Corentin Tréguier en moi, donc je pense que j'ai une obsession du monde naturel et en particulier du monde animal et en particulier, c'est vrai, des primates. Je sais pas d'où ça vient. Faudra explorer cela. Donc oui, en fait, Corentin part à Bornéo. Mais comme les navires à l'époque, les navires marchands faisaient des circonvolutions, ils s'arrêtaient pas en fait. Donc ils partent de Nantes et ils font une escale à Cardiff où des gens descendent, notamment des gens comme Lord Bolingbroke qui vient d'Inde, où il a fait fortune bien sûr, enfin où il continue à faire fortune. Et en fait lui descend parce qu'il a fini sa traversée et Corentin est censé la commencer. Sauf que évidemment les choses ne vont pas se passer comme il l'avait prévu.
Il y a beaucoup de hasard, hein. On l'entend, là vous venez de nous le dire, ça ne se passe pas comme c'était prévu. Vous avez bien expliqué qu'il y a cette part de hasard. Et puis on pourrait relier ça à ce que vous nous disiez il y a quelques minutes, c'est-à-dire que vous-même, vous placez l'Uchronie à la fin, c'est-à-dire que c'est l'Uchronie qui s'impose à vous. Comment se construit une aventure de Corentin Tréguier ? Vous choisissez un univers, que ce soit un univers géographique, et puis un champ à étudier, la colonisation, l'industrialisation. Et après, faut avancer, et c'est comme une énigme que vous avez vous-même en tant qu'auteur à résoudre.
Ouais, alors c'est exactement ça. Alors, pour Corentin, c'est très différent d'écrire un premier tome et un deuxième tome. Quand j'ai écrit le premier, il n'y avait pas d'idée de série. Il n'était pas question, ni pour moi, ni pour France Culture, d'en faire une suite. Et donc, la première aventure de Corentin, je crois que dans l'écriture, je pars souvent d'un point de détail ou d'une vision, et en fait, le point de départ du premier Corentin, c'est cette croyance, cette espèce de fantasme d'homme qui se transforme en singe. C'est parti de là, et à partir de là, la question coloniale est au centre en tout cas, fait partie des choses qui m'interrogent, qui m'intéressent. Je pense que c'est quand même, ça fait partie d'une partie de l'histoire qui est centrale pour comprendre la France d'aujourd'hui, et pas que la France. Et que, voilà, donc c'est vraiment un sujet qui me porte depuis longtemps. Et donc, soudain, quelque chose s'est construit autour de ça, autour de juste avant la colonisation de l'Afrique. Ce qui m'intéresse, c'est aussi les moments charnières. Parce que c'est juste avant qu'il peut se passer quelque chose qui ne se passera pas dans la réalité. Et donc le personnage de Corentin s'est inséré dans cette histoire et autour de lui, j'ai déroulé le fil. Et c'est vrai que pour cette première aventure, la fin uchronique est arrivée extrêmement tard dans mon processus d'écriture. Mais pour le deuxième, c'est très différent. Parce qu'il y a déjà un personnage, ce personnage est quand même assez clairement défini. Il a des personnages autour de lui, des personnages qui vont devenir récurrents dans ses aventures ou pas. Certains personnages ne reviennent pas hein, dans le deuxième tome. Et il y a aussi ce principe-là, le principe de Corentin, en fait, sa présence dans le monde change l'histoire. Et quand, alors c'est Nathan, c'est la bande dessinée, c'est Karine Leclerc, mon éditrice chez Nathan à l'époque, qui m'a dit très vite, on va faire un deuxième tome, parce que c'est une logique bande dessinée. Quand un héros plaît, et Corentin a beaucoup plu au lecteur, bah on le fait revenir, et ça devient éventuellement même un héros de série de bande dessinée. Et donc elle m'a dit, bon, je voudrais qu'on fasse un deuxième tome, est-ce que tu as une idée? Et alors c'était, il va aller en Inde, il va aller là, il va aller là. Et j'avais peur de reproduire la même histoire, et c'est très compliqué. Et je me suis dit, bah non, la question n'est pas où va-t-il aller? La question est, qu'est-ce qui va transformer? Qu'est-ce qui va faire péter? Donc on revient à la question originelle qui est celle des logiques de domination. Et je me dis, bah là, cette deuxième fois, c'est le capitalisme. Et donc il va aller où? Bah, au Royaume-Uni, parce qu'on est en 1875.
Ben oui, parce que c'est au Royaume-Uni qu'est née ce qu'on a longtemps appelé la révolution industrielle. On parle aujourd'hui beaucoup plus d'industrialisation. Elle nous est présentée par l'historien Jean-Pierre Rioux.
Jean-Pierre Rioux est l'auteur aux éditions du Seuil d'un volume consacré à la révolution industrielle. Pour Jean-Pierre Rioux, se pencher sur l'histoire de l'industrialisation n'est certainement pas faire preuve de passéisme. Il s'agit au contraire d'interrogations qui peuvent, à certains égards, nous guider dans les grandes options à prendre aujourd'hui.
Oui, je pense qu'il faut bien comprendre que les techniques de recherche ne sont pas neutres et qu'elles correspondent à des interrogations contemporaines. Et particulièrement sur toutes ces questions de développement industriel, nos problèmes immédiats de 1975 hein, qui concernent les modèles de croissance, qui concernent les problèmes de la crise, qui concernent ceux des coûts de la croissance et la mise même en question de la notion de croissance, bon, se répercutent et ouvrent, je dirais, des chantiers nouveaux dans la recherche sur ces problèmes.
Avec ici en 1977 la parole de l'historien Jean-Pierre Rioux, regretté Jean-Pierre Rioux qui nous a quitté en décembre 2024 avec une voix importante et même une voix aussi de radio hein, parce que Jean-Pierre Rioux a œuvré sur France Culture, producteur, chroniqueur dans les années 1980 avec un nom aussi que l'on croise, Emmanuel Suarez, dans votre parcours, ce nom de Rioux.
Bah oui, j'ai assez ému d'écouter cette archive parce que Jean-Pierre Rioux était quelqu'un d'assez important dans mon parcours universitaire et avant cela, sa femme, Hélène Rioux, qui était mon enseignante d'histoire en classe préparatoire au lycée Henri IV et qui est vraiment la personne qui m'a donné le goût de l'histoire universitaire en tout cas. Parce que le goût de l'histoire, je l'avais déjà, mais quand on arrive après le bac et qu'on commence à découvrir l'histoire comme discipline universitaire, un monde s'ouvre, ou se ferme d'ailleurs. Il y a des gens qui ne s'intéressent plus à l'histoire à ce moment-là. Et c'est vraiment Hélène Rioux, qui avait été professeure au lycée Duruy avant, je crois, et puis après Henri IV, qui a formé beaucoup d'ailleurs d'historiens et d'historiennes contemporains, dont certains étaient dans ma classe, et puis avant et après, et qui vraiment m'a donné le goût de ça, et notamment de l'histoire, d'une histoire sociale du XXe siècle, qui m'a vraiment marqué. C'est-à-dire que moi, on parlait de Gérard Noiriel, Jean-Pierre Rioux, et toute cette génération d'historiens qu'on a lus et relus parce qu'on était obligés, et puis après, même quand on n'était plus obligés, en tout cas moi, j'ai continué les lectures. Et puis Hélène m'emmenait avec mon amie Yolène Parizeau, qui est professeure maintenant à l'université, au Festival d'Histoire du film d'Histoire de Pessac, avec toute la bande de Jean-Pierre Rioux, Jean-Noël Jeannet, les gens de la revue d'histoire. Et donc, on découvrait aussi l'histoire à travers le cinéma, que ce soit le cinéma documentaire ou le cinéma de fiction, dans ce festival, qui existe encore, je crois.
Ah oui.
Et ça a été déterminant aussi pour moi, de me dire, bon voilà, cette discipline universitaire me fascine, m'interroge, m'intéresse, mais les fictions sont, je crois, pour moi, le meilleur moyen qui me correspond le plus, d'y parvenir, ou en tout cas de m'y consacrer.
C'est quoi votre parcours universitaire, vous, lié à l'histoire?
Après les prépas, j'ai fait une sorte de triple formation d'histoire à Paris 1. Donc, j'ai fait une licence d'histoire et puis le magistère de relations internationales et d'action à l'étranger de Paris 1. Donc, c'est un master 2 maintenant. Donc, c'est 3 ans de formation à base historique vraiment au départ. La première année, c'est quasiment que l'histoire de l'Europe, du monde contemporain et des relations internationales contemporaines. Et j'ai aussi fait une licence de géographie à Paris 1 aussi et un DULCO, donc une sorte de L1, L2 de langue bantoue, de Swahili à l'INALCO, à Langzo. Donc les trois, en fait, m'orientaient vers peut-être une carrière universitaire dans les sciences humaines, on va dire option Afrique subsaharienne.
D'accord.
En gros, c'était cette espèce de cohérence. Et en même temps, quand on fait 3 formations en même temps, il y a aussi beaucoup à piocher un peu partout. Parce qu'on fait, évidemment, quand on fait de l'histoire, on ne fait pas que de l'histoire contemporaine de l'Afrique subsaharienne, loin de là. Donc tout ce que j'ai pris dans ces 4-5 années de formation universitaire, est revenu comme un sorte de substrat, un terreau à l'intérieur de mon cerveau de connaissances et de fenêtres à ouvrir et de pistes de fiction à explorer.
Non mais je comprends, parce que maintenant j'ai la relation avec l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, parce que vous avez étudié le Swahili et le Kiswahili. Alors ça aurait pu être le Lingala, mais là vous allez encore plus à l'est. Mais il y a de ça, hein, c'est toujours l'interrogation de se dire comment un auteur, une autrice, on arrive à étudier un univers particulier. Et le Congo de cette fin du 19e siècle, les années 1870, c'est un espace, et on l'oublie souvent, mais qui est très raconté en Europe parce qu'il y a les récits de voyage, et puis Stanley, et puis Livingstone, et puis tout ça. Et donc vous, on pourrait dire que c'est par ça, l'INALCO, le Swahili, et on arrive avec Corentin Tréguier au Congo?
Oui, je pense que c'est sûr. Je pense que oui, au point de départ de Corentin, il y a ça aussi. Il y a des expériences, des visions, des idées que j'ai eues, notamment quand j'ai moi-même été en Afrique de l'Est. Petit à petit, je me suis plus intéressé à l'Afrique de l'Est, qui est, on va dire, plus rare pour les jeunes chercheurs français que l'Afrique de l'Ouest francophone. Donc moi, j'étais sur des terrains et sur des points d'intérêt donc du monde swahilophone, c'est-à-dire aujourd'hui, en gros, du Kenya, Tanzanie, Zanzibar, mais aussi un peu Rwanda, Burundi et une partie de l'Est du Congo. Et donc, c'était vraiment la région des Grands Lacs. C'est vraiment une zone qui m'intéressait, dans laquelle finalement, j'avais acquis plus de connaissances géographiques qu'historiques, d'ailleurs, parce que j'étais plus spécialisé en géographie sur cette partie de l'Afrique. Et donc, c'était assez intéressant pour moi de placer... Alors, je place Corentin Tréguier plus à l'ouest, mais vraiment autour de cette zone-là, qui n'est pas forcément une zone où l'imaginaire français, purement français, est très développé, mais qui était intéressante à plus d'un titre, parce que déjà, c'est quand même vraiment les zones des grands circuits marchands, et notamment de la traite des esclaves via Zanzibar, le sultanat d'Oman, etc. Donc il y a quand même vraiment cela. Et c'était aussi un endroit, donc Stanley, Livingstone, bien sûr, les sources du Nil, donc où il y a un imaginaire, on va dire, pan-européen, plus développé que l'Afrique de l'Ouest, qui est un peu dans l'imaginaire colonial français. Et donc c'était aussi une zone où on pouvait imaginer plus de choses et un plus grand changement. Et puis, il y a eu autour du Congo cette rivalité franco-belge qui a été à l'avantage des Belges et au désavantage, bien sûr, des habitants de la région. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant pour moi. Après, il y a aussi une évidence. Toute cette région, il y a beaucoup de lieux naturels, des chutes d'eau, des lacs, des montagnes qui ont été nommés et qui, aujourd'hui encore, portent des noms par ces explorateurs européens, hein, le lac Stanley, etc., qui existe encore. Et c'était vraiment évident pour moi que Corentin allait un jour faire face à un... Donc là, c'est un roi, hein, un roi local qui dit « Mais comment pouvez-vous imaginer que vous découvrez un endroit qui existe et qui est peuplé par des humains depuis plusieurs milliers d'années? Comment vous pouvez renommer une montagne ?» qui a déjà un nom? Et il lui dit, mais si vous cherchez les sources du Nil, je connais des dizaines et des centaines d'éleveurs de chèvres qui peuvent vous les montrer. On sait très bien où elles sont, les sources du Nil. Alors qu'est-ce que vous faites, en fait? Quel est vraiment l'objectif de vos expéditions?
Et c'est très intéressant d'avoir cette mise en perspective-là avec, et puisque vous parliez des imaginaires, Emmanuel Suarez, bah écoutez, moi je le fais, hein, mais en 3 briques, bande dessinée, aventure, Congo, Et c'est vrai qu'on pense très vite à Tintin. Dans les imaginaires, le Tintin au Congo, et vous devez le vivre sans arrêt. D'ailleurs, vous le savez, quand vous vous êtes intitulé une bande dessinée, l'incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, ce mot Congo nous renvoie à Tintin. Est-ce qu'on peut dire que Corentin Tréguier, c'est un contre-Tintin ?
Alors, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui le disent, enfin beaucoup de gens, dans la presse, etc. C'est comme ça que la bande dessinée, en tout cas la première, a été décrite. Et alors, je dois être Corentin, mais c'est complètement par hasard. Parce qu'au départ, donc Corentin Tréguier était une fiction radiophonique pour France Culture, réalisée par Sophie Haute-Picon, comme toutes les fictions que j'ai écrites depuis, et n'était pas vouée à devenir une bande dessinée. Donc c'est quelque chose qui ne m'est pas apparu. Et en fait, ça n'était pas le titre au départ. Il y avait un titre un peu obscur, très drôle, mais que la direction de France Culture à l'époque a refusé en disant ça, vraiment les gens vont rien comprendre, et ils avaient bien raison.
Lequel ?
Ça s'appelait Bolobo au départ. Bolobo étant le nom d'un village congolais, mais aussi il y avait cette référence aux bonobos qui sont les singes que Corentin rencontre. Mais en effet, c'était pas très parlant comme titre. Et donc j'ai inventé ce titre un peu à la 19e siècle, justement ces titres à rallonge. Au départ, j'avais même dit la très incroyable expédition de Corentin Tréguier au Congo, on a enlevé le trait. Mais soudain, quand c'est devenu une BD, ça a été évident pour tout le monde. On m'a dit, mais c'est Tintin au Congo, en plus Corentin au Congo. Il y a quand même quelque chose de très fort. Et alors je dois vous avouer que je n'avais pas lu Tintin au Congo.
Mazette. Eh ben non. C'est vrai ça ?
Oui, c'est vrai. J'avais lu plein de Tintin, mais pas celui-là. Je l'ai lu depuis, donc je savais la réputation de ce livre quand même. Donc les bras m'en sont tombés quand même. Je pensais pas qu'on pouvait aller à ce point, mais le livre a été écrit dans les années 30, en pleine période coloniale, française et belge, au moment de l'expédition, de l'explosion universelle, etc. Donc vraiment, Hergé, et donc Tintin à travers Hergé, était pétri de valeurs colonialiste. Et donc, c'est vrai que ce livre, il est terrifiant quand on le lit aujourd'hui dans sa version originale. Donc, les Africains sont vraiment représentés comme des gens absolument stupides, mais même le rapport à la nature est fou. Ils tuent des dizaines de gazelles, ils trouvent ça formidable, etc. Donc, évidemment, Corentin devient un anti-Tintin. Mais parce que Tintin a été écrit en 1930 et Corentin en 2018, le premier. Donc, évidemment et heureusement, qu'il y a un autre regard. Après, c'est aussi un regard personnel. Il y a peut-être des gens qui, aujourd'hui, réécriraient Tintin au Congo de la même façon qu'Hergé, je ne sais pas.
Ah non, mais ça, c'est très bien de le dire, parce que quand on assiste aujourd'hui à cette relecture du passé, ces contre-vérités, on se dit que ces discours authentiquement racistes, hein, on peut le dire, c'était ainsi qu'étaient perçus ces mondes-là, au moment de l'exposition coloniale, celle de 1931, on n'y croit même pas. Enfin, ça nous fait froid dans le dos, et c'est bien, aujourd'hui, de publier Tintin au Congo, et c'est bien de le lire, mais comme un document historique, on le voit bien, Corentin Tréguier, c'est une toute autre démarche. Et puis, j'ai envie de dire qu'il y a une différence aussi dans la forme de création, parce que Hergé est un auteur de bande dessinée qui fabrique une bande dessinée. Vous, en l'occurrence, Emmanuel Suarez, vous êtes un auteur de bande dessinée, bien sûr, mais avant la bande dessinée, il y a la fiction radiophonique.
Copyright One, une émission d'Yvonne Taquet. Aujourd'hui, anecdote de Christian Collin.
Le spectacle commence à 8h30. Je n'étais jamais venu dans ce petit théâtre. Très peu de monde. Peut-être une quarantaine. Nous sommes deux dans ma rangée. Moi, et deux sièges plus loin, un homme. Un gros homme. Vraiment gros. Son visage est rond, lisse. Ses yeux sont petits, mobiles, rieurs. Ses cheveux sont coupés courts, clairsemés. Une mèche particulière tombe sur son front et le souligne. Juste sous son nez, une étroite moustache mal taillée. Sur sa tête est posé un drôle de chapeau blanc. Il est vêtu d'un costume sombre et triqué. Le tout est très très sympathique. Ah, il triture dans sa main droite un mouchoir blanc.
en 1979, une fiction radiophonique sur France Culture, évidemment, copyright One, avec ici, c'est voilà, alors c'était une fiction radiophonique avec plein d'interprètes. Christian Colin, notamment, portait sa voix, Roger Mollien et Roland Amstutz. Ici, c'est de la fiction radiophonique. 1979, vous étiez tout jeune, vous avez quoi, 5 ans à ce moment-là, oui, Emmanuel ça, Suarez. Oui. Ça veut dire quoi, une fiction radiophonique, dans votre parcours à vous, avant d'en proposer des fictions radiophoniques?
Alors moi, j'étais comédien pendant longtemps. Donc, pour moi, au départ, la pratique de la fiction radiophonique à France Culture, c'était comme comédien. Et grâce à Sophie Haute-Picon, puis à d'autres réalisateurs comme Baptiste Guiton, Cédric Ossier. Et en fait, j'ai redécouvert la fiction, donc en 2015 ou quelque chose comme ça, c'est assez récent, 2014-2015. Et j'ai découvert quelque chose d'assez nouveau, parce que je pense que la fiction a énormément évolué, la fiction radiophonique est un... Il y a encore des gens qui disent « Ah bon, ça existe ?» ou « Ça existe à nouveau ?» Donc on a quand même une image des dramatiques radio, comme on les appelait à l'époque, et le genre s'est vraiment renouvelé avec notamment des pratiques et techniques et de jeux d'acteurs, de réalisation. Il y a des réalisatrices et des réalisateurs à France Culture, à Radio France, qui sont spécialisés en fiction, qui sont assez proches du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du cinéma avec des micros à la place de la caméra. Et donc, on est dans une esthétique qui est très différente de ce qu'on vient d'entendre, même si c'est très beau. C'est-à-dire avec, dans Corentin Tréguier, dans le deuxième, je crois qu'il y a 70 comédiens. Il y a des fictions sur France Culture, comme 57 rue de Varennes, où il y a des centaines de comédiens. On est vraiment dans une logique de cinéma sonore, quasiment. Mais à l'époque, c'était différent. Et moi, j'ai un vieux souvenir qui m'est revenu très récemment. Quelqu'un de très important dans ma vie, qui était ma marraine, Claude Besson, et qui écoutait, à partir du moment où elle était à Trèves, c'était une institutrice, comme tous les gens autour de moi quand j'étais enfant, et elle écoutait France Culture toute la journée. Elle vivait avec France Culture. Et alors, si je me souviens bien, parce que j'étais petit, il y avait une fiction quotidienne vers midi, à l'époque. Et j'écoutais, donc, avant ou après une grande émission de critique qui ressemble un peu à la grande table de l'époque, je sais pas comment ça s'appelait, et j'écoutais 5-10 minutes tous les jours, enfin, quand j'étais chez elle, cette fiction avec ces comédiens qui jouaient un peu comme ce qu'on vient d'écouter à l'époque, un jeu un peu théâtral, un peu désincarné, mais très beau. Et ça me fascinait. Et puis plus tard, dans mes études, ou quand je suis devenu comédien, j'ai été en Angleterre, j'ai travaillé en anglais avec une compagnie bilingue, etc. Et pour parfaire mon anglais, et aussi par passion, j'ai beaucoup écouté la BBC et j'ai découvert les fictions radiophoniques de la BBC, qui là ressemblent plus. Alors il y a des fameux quotidiennes, comme The Archer, qui est vraiment une sorte d'institution. Il y a des Anglais qui écoutent cette fiction tous les jours, depuis 50 ans ou 60 ans, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est extrêmement ancien. Mais il y a aussi des fictions très contemporaines qui ressemblent plus à celles qu'on fait à France Culture, et qui sont, je dois le dire, assez uniques. C'est-à-dire que franchement, la fiction radiophonique telle qu'on l'a fait à Radio France, et en particulier à France Culture, est relativement unique au monde. C'est-à-dire que ce n'est pas des comédiens assis autour d'une table statique avec des effets de post-production sonore qui peuvent être réussis, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis et ailleurs, ailleurs en France d'ailleurs. C'est vraiment des studios là qu'on a, qui sont tout neufs, qui viennent d'ouvrir, avec une chambre sourde, une chambre claire, des grands studios, des ingénieurs du son qui sont spécialisés, des réalisatrices, réalisateurs spécialisés, des acteurs, des grands comédiens, comédiennes qui viennent jouer. Et c'est vraiment un art qui est assez, dont on peut être très fier, et qui ouvre un imaginaire incroyable, parce qu'on peut faire une fiction radiophonique qui se passe en 1875 ou 72 au Congo, dans la forêt, on peut faire de l'anticipation dans l'espace, on peut faire des choses incroyables que les productions audiovisuelles auraient bien du mal à payer, parce que le son, c'est l'imaginaire qui s'offre à l'auditeur.
Voilà, c'est peut-être la petite différence avec le cinéma ou la télévision, hein, c'est que par la radio, et la bande dessinée a à peu près les mêmes possibles. C'est que vous pouvez vous payer, mais alors, des décors sensationnels. Vous, votre navire à vapeur de je sais pas combien de dizaines de mètres de long, vous l'avez. Vous pouvez faire traverser le monde à votre personnage à moindre frais, j'ai envie de dire. Rencontrer des bonobos autant que vous voulez.
Oui, bah après c'est aussi le génie du dessinateur, Amo, Pierre-Yves Bérin, qui fait qu'on peut, en effet, j'écris sur le scénario, il y a une foule de 3000 personnes devant Buckingham Palace. Et lui, il fait apparaître une foule de 3000 personnes devant Buckingham Palace avec beaucoup de travail et de talent. Mais ça, c'est vraiment formidable, en effet. Et on peut aussi faire apparaître des personnages réels, comme par exemple la reine Victoria dans le tome 2, avec l'art du dessinateur. Et ça, c'est... En effet, il y a quelque chose de commun entre la fiction radiophonique et la bande dessinée, c'est la possibilité de faire apparaître un monde, alors à moindre frais, je ne sais pas, mais en tout cas avec surtout essentiellement du talent.
Oui, puis on peut rappeler que dans tous les cas, c'est un travail d'équipe, parce qu'il y a vous, Emmanuel Suarez, il y a Amo pour les dessins, bien sûr, et puis il y a toutes les équipes, on l'oublie souvent dans la bande dessinée, mais il y a vraiment beaucoup de monde, et à la radio, c'est exactement la même chose. On a cité le nom des réalisatrices, il y a toutes les coordinations de ces émissions, Blandine Masson, les bruiteurs, les bruiteuses aussi.
Bien sûr, alors là, c'est Bertrand Amiel qui fait les bruitages des Courantes Intriguées et de la Division d'ailleurs, et qui est un peu une figure du bruitage. Il y a aussi Elodie Fiat actuellement, et c'est extraordinaire. Le travail des bruiteurs de fiction est un travail pareil qui est unique, qui est presque unique au monde. Enfin, il y en a quelques-uns bien sûr ailleurs qu'en France, mais la plupart, en tout cas les mieux formés, sont à Radio France, et c'est un travail extraordinaire parce que justement, je raconte souvent cette anecdote, mais je la répète, c'est que dans le premier Corentin, il fallait faire entendre un navire à vapeur. Mais c'était des navires en bois à l'époque, et ils avaient aussi des voiles. Et là, bon, bah, comment on va faire ça? Il n'y a pas d'archives de navires à vapeur du 19e à l'INA. Ça n'existe pas. Et là, Bertrand, pendant une pause, va dans le studio, nous dit écoutez, il ouvre le piano à queue. Il y a des pianos dans tous les studios ici, c'est formidable. Met un ventilateur dont il a enlevé deux pales, donc il ne reste plus que deux pales au ventilateur pour faire deux temps, le branche et le mettre dans le piano à queue. Et soudain, on entend un navire à vapeur, parce qu'on entend les cordes, le bois du piano et la pale régulière du ventilateur. Et ça, c'est quand même un génie incroyable qu'ont les bruiteuses et les bruiteurs de Radio France de faire apparaître un monde sonore avec du bricolage, avec réellement une science du son qui est une science de l'artisanat aussi. Et ça, c'est très beau.
Et c'est très très beau, et puis on peut le souligner, alors par les podcasts bien sûr, il y a cette beauté que vous venez d'évoquer, c'est absolument magique, hein, la fiction radiophonique, les dramatiques, ça nous envoie dans un univers absolument incroyable, alors que ce sont juste les oreilles qui sont mobilisées, d'un seul coup c'est tout le cerveau, le corps, on a chaud, on a froid, et pour la bande dessinée c'est absolument pareil, c'est aussi la beauté esthétique, hein. Faut dire que Amo réalise un travail absolument admirable, parce qu'il a donné un visage à Corentin Tréguier. D'ailleurs, juste une question, il ressemblait à quoi votre Corentin Tréguier avant qu'il soit créé de manière dessinée par Amo?
Alors là, c'est très drôle comme question, parce que donc moi j'ai imaginé bien sûr un personnage. Alors les traits d'un personnage qu'on a dans la tête peuvent être assez flous, mais bon, quand même, il était là dans ma tête. Et puis Sophie Haute-Picon, la réalisatrice, lui a donné une voix. C'est la voix de Quentin Dolmer, qui est un acteur incroyable et qui a une voix très particulière. Et c'est un jeune acteur et qui a une voix presque historique. Enfin, il y a quelque chose dans son phrasé et dans son timbre qui est unique. Et ça, c'est la science des réalisateurs de trouver la bonne voix. Et c'était évidemment la voix de Corentin. Mais alors, pas du tout le physique de ce que j'avais dans la tête. Donc, voilà, mais c'est pas grave, c'est de la radio. Donc, la tête de Quentin Dolmer, on la voit pas, on entend sa voix. Et puis, quand la BD s'est faite, le dessinateur a écouté la fiction pour imaginer des histoires. Et l'éditrice Karine Leclerc m'a envoyé ce qu'on appelle un chara-design, c'est-à-dire un dessin des personnages principaux, pour voir si on allait travailler avec lui. Et soudain, Corentin était exactement comme je l'imaginais. Donc, le dessinateur, en entendant la voix de Quentin Dolmer, a imaginé un Corentin, un physique à Corentin, qui était celui que j'avais dans la tête, et qui ne ressemble pas à l'acteur, qui est plutôt Corentin, plutôt grand, maigre, maigrichon, blond. Voilà, breton, il y a aussi cet imaginaire peut-être, même si tous les bretons sont pas blonds. Donc c'était assez drôle, je l'avais imaginé exactement comme il est dans la BD.
Parce que c'est ça aussi, c'est une question d'imagination de tous les côtés, une question de dessin aussi. Vous avez fait des études de géographie, hein. Vous nous avez dit la géographie était là dans votre parcours. Géographe, c'est aussi être dessinateur, il y a les cartes, il n'y a pas que ça. Et la géographie ne se réduit pas aux cartes. C'est étudier les gens, justement, comment ils sont. Retour sur cette géographie du passé avec l'évocation de ces grands géographes, Vidal de la Blache et Élisée Reclus.
Ce qui intéresse Vidal, c'est l'homme habitant et non pas l'homme producteur. Par exemple, ce n'est jamais l'Angleterre qui produit du charbon, mais les mineurs qui travaillent dans les mines produisent du charbon. Ce n'est jamais la France qui, ce sont les Français qui, ou c'est les paysans français qui, ou c'est les petits paysans, toujours avec une extrême précision. Bon, vous avez chez Reclus la carte des grèves et des lieux de grève, avec leur fréquence, par exemple. Bon, en expliquant un certain nombre de choses. Quand vous avez chute de production, Rockliffe vous dit toujours, ça a voulu dire grève, ça veut dire licenciement. Bon, donc c'est l'homme producteur. Chez Vidal, c'est tout à fait différent, c'est l'homme habitant. C'est-à-dire que ce qu'il faut, c'est décrire, expliquer aussi, mais expliquer ce qui se voit. C'est, si vous voulez, le grand livre ouvert de la nature que le géographe va lire. Et longtemps, on a dit la géographie, c'est le concret. C'est une science objective. C'est simple, puisqu'elle regarde. Et comme elle regarde, elle raconte ce qu'elle voit.
Mais oui, tout simplement, c'est Béatrice Gibelin qui nous présentait Vidal de la Blache, Élisée Recru, des grands géographes. Béatrice Gibelin qui est elle-même, évidemment, géographe, géopolitologue, avec cette complexité de savoir décrire l'autre, réfléchir à l'autre. Et dans le cas d'Élisée Recru, ouvertement libertaire, c'est une vraie voix politique ici qui prend toute sa place. Quand on suit ces aventures de Corentin Triguet, il y a quelque chose de politique, d'obligatoirement politique. Mais Emmanuel Suarez, vous allez peut-être me répondre, mais tout est politique. On ne peut pas s'en sortir. Il fait pas de politique, mais c'est politique.
Oui, je pense. Bah après, moi, ce que je trouve intéressant avec la fiction et avec surtout avec le rapport à l'histoire, moi, à mon sens, nous libère de la tyrannie de l'actualité. Et je trouve que l'actualité est tyrannique, et alors en ce moment, elle l'est encore plus que d'habitude. C'est-à-dire que la façon dont on nous la présente nous impose d'abord des informations, nous impose de parler de telle ou telle personne, nous impose notamment de parler des personnalités politiques, des décisions des hommes politiques, des femmes politiques, il y en a moins, et nous impose même de ressentir de l'effroi, de la peur, de la compassion, de l'énervement, etc. Et le rapport à l'histoire nous permet de prendre de la distance par rapport à cela, de choisir aussi ce vers quoi notre regard va se porter et la façon dont nous allons regarder les choses. Et puis, finalement, c'est un point de vue, c'est toujours un point de vue. Le point de vue qu'on choisit, le point de vue que je choisis moi, par exemple, ça va être de l'empathie et de l'intérêt, on va dire, pour les gens du peuple, plus que pour les puissants. Les personnages dominants sont finalement des personnages secondaires dans mon histoire, et je pense d'ailleurs qu'ils sont des personnages secondaires dans la vie des gens, réellement. Le président de la République, Emmanuel Macron, est un personnage secondaire dans la vie de chacun d'entre nous, à part probablement de sa femme et de ses proches collaborateurs. Et c'est important que la fiction puisse ramener ça. Et ça, c'est politique. Le point de vue d'un auteur est forcément politique, même si on ne parle pas forcément de parti politique en l'occurrence, et surtout de politique contemporaine. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important. Après, moi, j'ai une histoire familiale qui est empreinte de politique.
Laquelle ?
Mes grands-parents paternels étaient réfugiés politique de la guerre civile d'Espagne. Donc mes grands-parents, en fait, très jeunes, ont fui l'Espagne franquiste, à pied, voilà, comme beaucoup, c'est la retirada, ont fait des camps de concentration à Argelès, etc. Puis se sont installés comme ouvriers agricoles, puis agriculteurs dans le sud de la France, dans le Gers. Et cette histoire donc personnelle qui est tellement lié à l'histoire du monde, l'histoire de l'Europe, c'est quand même un exil politique, comme il y en a eu beaucoup d'autres, marque forcément les destins individuels de chacun d'entre nous. Mais c'est une histoire qui est tue. C'est-à-dire que nous, je parle de moi, de ma sœur, de mes cousins, cousines, on nous a très peu raconté cette histoire parce que mes grands-parents n'en parlaient pas. Parce que, d'abord, il y a un traumatisme. Il y a aussi quand même Franco qui est là jusqu'en 75. Donc, on est encore pendant 36 ans, ils sont en France, mais la dictature existe encore, elle est aux portes de l'autre côté des Pyrénées, et donc on n'en parle pas, mais aussi parce que ils avaient envie que leurs enfants et leurs petits-enfants soient français, parce que la France était encore à l'époque un pays d'accueil des immigrés et des réfugiés qui vraiment accueillaient, donnaient leur chance, et mon père et ses quatre frères ont saisi cette chance. Ils sont presque tous fonctionnaires, ils ont fait des études, ils ont tous le bac, ils sont instituteurs, directeurs d'école. Son plus jeune frère est même maire du village dans lequel il a grandi, ce qui est quand même incroyable parce que c'est quand même l'enfant de réfugiés qui ne parlait pas français, mes grands-parents n'ont jamais vraiment parlé français, et leur fils cadet est maire du village aujourd'hui. Donc c'est quand même une sorte de vision de l'histoire et de l'histoire de la France qu'on porte, même si on n'en a pas parlé. C'est-à-dire cette France qui accueille les réfugiés du monde, elle existait il n'y a pas si longtemps que ça. Ce serait bien qu'elle existe encore, la question se pose. Donc ça, c'est quelque chose qui marque l'esprit, même si on parlait pas forcément de politique. Et puis l'autre chose qui m'a marqué, c'est qu'après, moi, j'ai grandi avec mon père, ma mère, ma marraine dont je vous parlais, en banlieue dans l'Essonne, à Vigne-sur-Seine, dans une communauté, on va dire, communiste, d'instituteurs communistes, de banlieue rouge. Avec tout ce que ça comporte, quand j'étais enfant, de fêtes, de fédérations sportives du travail, d'accueil. Notamment, il y avait à la maison des réfugiés palestiniens, du Nicaragua, chiliens, angolais. Et donc, j'ai grandi avec ça. Donc, finalement, on n'en parle pas tant. J'avais 7 ans, 6 ans, 8 ans. On me raconte rapidement, bah, il y a la guerre chez eux, ils sont réfugiés, il y a des méchants, il y a des gentils. Mais finalement, ça marque un enfant. Ça marque un enfant. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est la découverte de la complexité de ces situations. Quand mon ami Mohamed est reparti palestinien, est parti à Tunis, comme beaucoup de Palestiniens à l'époque, et m'a envoyé une photo de lui avec une mitraillette, j'ai eu un choc. Je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est lui la victime, pourquoi il a une mitraillette? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que cette question-là, politique, historique, elle s'est ancrée en moi, et elle a décanté petit à petit, jusqu'à me donner vraiment l'envie et le besoin, la nécessité de comprendre.
Mais la nécessité de comprendre. Ce que vous dites là, c'est très juste parce que il y a dans la démarche que vous avez, et c'est vraiment par Corentin Tréguier, des idées d'expédition, d'enquête, d'aventure. Et cette idée d'enquête, elle est là. Dans La Division, Emmanuel Suarez, publié chez Nathan également. Mais d'ailleurs, c'est le sous-titre. C'est l'enquête d'une femme sur les traces des Waffen-SS français. Cette idée de comprendre. Et moi, j'aime beaucoup cette démarche-là parce que c'est la démarche de l'historien, de l'historienne, ou en tout cas c'est la démarche qui va conduire à aller lire des ouvrages d'historiens et d'historiennes par la suite. Et c'est ça qui est important. D'ailleurs, pourquoi avoir dans La Division, c'est le titre de cette bande dessinée, pourquoi avoir exploré ce monde particulier des Waffen-SS français?
Alors, donc La Division, c'est une bande dessinée, c'était aussi une fiction radiophonique de France Culture, toujours réalisée par Sophie Haute-Picon. Alors c'est La Division Charlemagne, celle qu'on a appelée La Division Charlemagne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, je pense que les zones d'ombre de l'histoire, le fait de laisser enfoui des pans entiers de l'histoire, moi, je parle de repli honteux de l'histoire française, c'est forcément mauvais. C'est forcément des choses qui vont nous ressortir à un mauvais moment. Le fait de ne pas avoir exploré réellement de façon claire et partagée l'histoire de la collaboration française, ça n'est pas une bonne idée. Le fait de nier la réalité d'un fascisme français, c'est pas une bonne idée, parce qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui. Donc, s'intéresser aux années 20, aux années 30 et à la collaboration extrême, par exemple, les collaborationnistes qui ont la collaboration extrême de la division Charlemagne, c'est quand même des gens qui, après la libération de la France en 1944, se sont engagés dans les Waffen-SS pour essayer de faire gagner l'armée d'Hitler. Donc, c'est vraiment, là, on peut parler de nazis français, réellement. Mais ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est de faire de la lumière, de sortir les démons du placard. Il faut qu'ils sortent du placard, les démons. C'est comme dans la littérature japonaise. Il faut se confronter aux démons, parce que sinon, voilà, on se les reprend dans la tronche 80 ans plus tard. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Mais on ne peut pas étudier la division Charlemagne, parce qu'il n'y a pas d'archives. Donc en fait, le travail historique, ou en tout cas, on n'y a pas accès. Le travail historique est difficile, donc il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de thèse sur la division Charlemagne, pour plein de raisons. Donc ce qui m'intéressait, c'est de mettre en scène une historienne qui va chercher, et elle va chercher ça 50 ans plus tard, en 95, donc dans un monde qui est l'Europe post-mur de Berlin, donc en plus dans une Europe en recomposition, où tout est possible finalement. On peut choisir ses alliances, mais il y a quelque chose d'assez intrigant et d'assez complexe dans cette Europe-là. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt la recherche d'une femme qui ne va pas trouver ce qu'elle cherchait, parce qu'elle ne peut pas le trouver. En fait, malheureusement, on ne peut pas faire un travail d'historien sur cette partie de l'histoire. Donc, ce qu'il faut faire, c'est un travail d'enquêteur, et surtout, c'est de la lumière. Faire la lumière sur les choses, c'est quand même vraiment ce dont on a besoin.
Surtout que le passé surgit parfois quand on ne s'y attend pas.
Il m'est difficile de parler au nom des 7000 garçons, car il faut quand même le préciser, il y a eu 7000 garçons venus des horizons les plus divers qui ont combattu sur le front de l'Est. Dans la division Charlemagne, il y a, on prétend qu'il n'y a plus que 300 survivants, je le crois aisément. C'est quand même très important. La majorité, comme je vous l'ai dit, n'était pas du tout préparée à prendre cet uniforme, et surtout prendre en plus l'uniforme le plus excessif.
Qui était celui de la Waffen-SS.
Celui qui était de la Waffen-SS.
57 000 hommes jeunes et dont une partie pouvait prétendre à être un jour les cadres de la nation vont se faire massacrer sous un uniforme, pour moi c'est quand même quelque chose de sérieux.
En 1971, c'est un témoignage qui a été intégré dans le film Le Chagrin et la Pitié de Marcel Ophuls avec ici Christian de la Mazière, personnage sombre. Je rappelle, hein, là, le film est tourné en 1969, à peu près dans les années qui suivent. Christian de la Mazière qui est engagé, collabo évident, Waffen-SS. Ce que je voudrais vous poser comme question, Emmanuel Suarez, c'est, et vous l'avez fait de manière naturelle, l'écho au monde d'aujourd'hui, cacher les collabos français en se disant, bon allez, c'est du passé et ça ne ressurgit pas, nous fait frémir quand on voit qu'aujourd'hui des saluts nazis sont commentés parce que aux États-Unis des saluts nazis sont faits par des dirigeants. C'est en cela que le passé ne peut se cacher comme la poussière sous le tapis, ça ressurgit toujours.
Oui, et en plus ça ressurgit de façon mal digérée. C'est-à-dire qu'en fait finalement il y a des choses, si on avait fait le travail de mémoire, le travail d'analyse que la collaboration nécessitait au bon moment, ces questions-là pourraient pas ressurgir comme des choses un peu oui mais non mais en fait c'est pas vraiment la même chose que dans les années 30, etc. C'est pas très grave. Le Rassemblement National, le terme de Rassemblement National a été quand même emprunté à un mouvement vichiste. Ça a été un peu dit. Mais pas tant que ça, finalement. C'est-à-dire que c'est comme si c'était pas très grave en 2020, je sais plus quand ils ont changé de nom, de reprendre ce terme-là. Et puis même, il y a une sorte de réhabilitation du maréchal Pétain et du régime vichiste, comme, parce qu'il a été traité trop longtemps comme une sorte de parenthèse et d'anomalie historique française. Alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il y a finalement, la France a été en guerre contre Hitler, mais il y a eu des vraies hésitations dans les années 30, en France, au sein même de l'élite politique française, sur la voie à suivre, comme il y en a eu en Angleterre, on le dit pas souvent, mais il y avait des notables anglais, des aristocrates, des gens d'Angleterre qui étaient assez favorables à Hitler et qui auraient pu faire pencher la balance dans ce sens-là. Et le fait d'en reparler, le fait de pouvoir éclaircir ça plutôt que de mettre sous le tapis « Non, mais c'est pas grave, on a tous été résistants, on est tous du bon côté de l'histoire », entre guillemets, cette expression, à mon avis, n'est pas très intéressante, bah, ça fait que bah, aujourd'hui, finalement, une histoire mal comprise ou mal digérée peut ramener les démons à sortir du placard.
Et puis, c'est l'occasion, à travers les podcasts ou la bande dessinée, de revisiter cette histoire-là avec, je vous le dis hein, de manière évidente, combien je suis sensible à votre démarche, Emmanuel Suarez, parce que le roman ou la bande dessinée, qui pourrait être un livre d'histoire, mais qui prend juste une autre forme, c'est une proposition intéressante, mais s'emparer du passé pour aller beaucoup plus loin et y placer cette forme d'uchronie pour créer une plus grande compréhension, une plus grande ouverture de cette lecture de l'histoire, c'est absolument sensationnel à vivre. J'ai bien remarqué qu'à chaque fois que vous avez présenté l'improbable révolution de Corentin Tréguier au Royaume-Uni, vous avez toujours dit « c'est le deuxième épisode, jamais le second ». Donc ça veut dire qu'il y a une suite qui s'annonce.
La question de la suite se pose en effet.
Voilà, bah, tant mieux pour nous. Je vous le dis de manière très franche. Merci beaucoup Emmanuel Suarez d'être passé dans le cours de l'histoire.
Merci beaucoup.
Que d'aventure.
Plus de porteur. J'allais tout de même pas porter mes valises moi-même, non? J'ai donc arrêté là mon expédition et au fond j'ai bien fait, car renseignement pris auprès du jardinier du jardin des plantes, ma youpi, ma chère petite tête de clématite du genre volubile, mauvais genre, n'a jamais existé, c'est un mythe. Pas une mythe, un mythe.
Voilà, ça c'est dit, c'est Jean Richard et c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec à la technique Élise Le, émission préparée par Maïwenn Guizhou, Jeanne Delecroix, Jeanne Copé, Raphaël Lalou, Maël Vincent Randonnier. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.